faut sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes. Allez-y les.
J'adore sortir. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez de sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. Oui, c'est trop intéressant. Allez-y quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est
quoi. Sortez les jambes.
Ok, vous voulez sortir.
Mon chien bleu, je vais sortir.
Veuillez sortir.
Je suis chocolat, chocolat.
Sortez tous avec nous.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tours, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme à mon habitude avec Samuel. Bonjour Samuel.
Salut Marie.
Aujourd'hui, c'est le dernier volet de la série d'émissions Explosons le plafond, aux côtés de Geoffrey de la compagnie Mobius Band. Et donc cette émission est sur le thème des femmes à l'université et l'entrepreneuriat au féminin. Nous avons le plaisir de recevoir Lindsay Georges, chargée d'entrepreneuriat étudiant, et Christine Inchospé, excusez-moi, j'ai du mal avec ce nom, responsable administrative de mission égalité à l'université de Tours. Bonjour, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et si on ne se faisait pas une petite présentation, quelles sont vos missions dans vos structures respectives?
L'INSEE, je commence. Alors, donc enchantée, l'INSEE Georges, je suis chargée d'entrepreneuriat étudiant. Et si on veut mon titre complet, je suis chargée de projet Esprit d'entreprendre femme sur le projet Loire-Vallée Innove. Et je suis aussi chargée de projet Université européenne Neolaya. Je suis rattachée à Pépite Centre Val de Loire sur l'entrepreneuriat étudiant au sein de l'université.
Donc moi, bonjour à toutes et à tous. Je suis Christine Inchospé, je suis responsable administrative de la mission égalité et diversité à l'université de Tours. C'est une mission qui vise à promouvoir toutes les questions d'égalité, les thématiques d'égalité, de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles à l'université pour les personnels et les étudiants et étudiantes.
Et on n'a pas encore eu l'occasion de t'entendre. Bonjour Geoffrey.
Bonjour.
Fidèle au poste depuis le début de la semaine. Lindsay et Christine, quels ont été vos parcours respectifs avant d'occuper vos postes actuels?
Alors moi, me concernant, en fait, je suis arrivée à l'université en 2016 après une longue carrière, presque 13 ans, au Crous d'Orléans-Tours en tant que directrice de restaurant et de résidence universitaire. Et puis en 2016, j'ai rejoint la faculté de droit en tant que responsable administrative et suite à un changement de carrière, je suis arrivée en 2021 à la mission égalité, donc plutôt une carrière administrative en premier, donc plutôt dans la facilitation des politiques, que ce soit au CROUS ou à l'université. Et puis là, à la mission égalité depuis 4 ans déjà.
Oui, moi de mon côté, j'ai un parcours un petit peu, j'ai pas mal bougé. J'ai commencé à la base en compta finance. Moi, j'ai fait des études à l'origine, j'ai un diplôme en management, option audit, expertise comptable. Et j'ai très vite bifurqué vers l'entrepreneuriat. J'ai travaillé dans le privé, dans une petite structure où on organisait des événements liés à l'entrepreneuriat, un petit type Startup Weekend pour ceux qui connaissent. J'ai ensuite travaillé dans un projet de recherche. J'ai fait de la recherche en tant qu'ingénieur d'études à l'université de Tours. C'est la première fois que j'ai travaillé pendant 2 ans. Et je suis retournée vers l'entrepreneuriat, cette fois à l'université à nouveau, au sein de Pépite en tant que chargée d'entrepreneuriat étudiant depuis 2020. Avec différentes missions, je suis passée dans le privé, dans le public, sur différentes thématiques.
Et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir votre domaine d'activité ou votre profession?
Alors moi, me concernant, c'est un hasard en fait. C'est un hasard qui est bien tombé me concernant, puisque en 2021, je suis arrivée sur ces fonctions et que je dirais qu'à partir de ce moment-là, j'ai découvert, même si ça sommeillait un petit peu en moi, ces sujets de l'égalité, ces thématiques en fait qui me tiennent énormément à cœur. Et en fait, c'est quelque chose qui a rempli, je dirais, toutes mes aspirations, qui répond complètement à mes valeurs. Et donc, c'est extrêmement enrichissant et extrêmement satisfaisant de se retrouver sur des missions qui correspondent et qui sont complètement alignées avec vos valeurs. Je sais, je mesure chaque jour la chance que j'ai de pouvoir promouvoir ces sujets, de pouvoir, je dirais, monter des projets sur ces sujets. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, même au-delà de mes semaines de travail. Parce que j'ai à cœur, même les week-ends, même les soirs, en fait, de toujours lire, de toujours écouter des émissions sur ces sujets. Je suis vraiment passionnée, en fait, par tous ces sujets.
moi, c'est plus... J'ai eu différentes opportunités. J'ai assez vite réalisé en fait que j'aimais être dans le conseil et l'accompagnement. C'est pour ça que j'ai basculé de la partie, on va dire, financière à la partie vraiment accompagnement. Sur les questions d'égalité homme-femme au travail et dans l'entrepreneuriat, c'est venu au départ un petit peu par hasard sur ce premier travail de recherche. En fait, c'était un travail sur l'invisibilité des discriminations faites aux femmes dans l'emploi, pas que dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai réalisé en fait tout ce qu'il pouvait y avoir. Pour moi, c'était pas vraiment... au début de ma carrière professionnelle, il y avait pas de problème dans l'égalité homme-femme au travail. C'était quelque chose... C'était un combat du passé. Et j'ai réalisé que non, il y avait un côté un peu insidieux et qu'il y avait beaucoup de choses qui posaient encore problème. Et le fait de pouvoir travailler sur ça dans l'entrepreneuriat, dans mes missions maintenant, ça fait un an que je suis sur ces missions... égalité dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je trouve important dans une logique d'égalité des chances, en fait, d'ouvrir déjà le programme à la base. Pépite, il est là pour, c'est pour essayer de lisser un petit peu entre des gens qui viendraient d'un milieu où ils ont des entrepreneurs dans la famille, qui connaissent bien le milieu, d'offrir au maximum les mêmes chances à tout le monde et de réaliser qu'en fait, il y a la même... Il y a la même chose quand on est... Enfin, qu'il y a quelque chose en plus à proposer aux jeunes filles, aux jeunes femmes pour les projets d'entrepreneuriat et qu'il continue à y avoir des différences.
Et si on s'attarde justement un petit peu sur ce pôle Pépite, en quoi ça consiste exactement et depuis combien de temps ça existe ?
Alors, Pépite, ça existe depuis 2014, l'année scolaire 2014-2015, donc on va fêter nos 10 ans. Ça a été créé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, justement dans cette logique d'harmoniser ce qui pouvait déjà exister, parce qu'on n'a pas inventé l'entrepreneuriat pour les étudiants. Il y avait déjà des dispositifs pour aider les étudiants qui avaient des projets de création d'entreprise à émerger, des concours un peu partout en France. Et là, c'était l'idée, le rôle de Pépite, en fait, c'est de proposer des événements, des actions et un accompagnement pour faire de la sensibilisation et de l'accompagnement pour tous les étudiants de l'université, mais d'ailleurs, de vraiment tous les étudiants du supérieur de la région, les accompagner dans le montage de projets de création, d'entreprises, d'associations, tout ce qui peut être des projets pérennes. Et donc, il y a une logique, en fait, les pôles Pépites, il y en a partout en France. Nous, on est Pépites Centre-Val de Loire. Mais l'idée, c'est qu'au travers de... Enfin, il y en a, ça couvre tout le territoire. Et qu'il y ait les mêmes opportunités, les mêmes possibilités partout qu'on entreprenne n'importe quel endroit.
Et alors, si on switch du côté de la mission égalité de l'Université de Tours, depuis combien de temps est-ce qu'elle existe ?
Alors la mission égalité, elle remonte, alors si on se réfère au texte de loi, en fait, ça remonte à la loi de 2013 de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'époque, Geneviève Fiorazzo. Et dans cette loi, il était prévu que s'installent des missions égalité, en fait, dans les universités. Pour, je dirais, dans la continuité en fait des politiques universitaires, d'avoir des services quelque part, des supports en fait qui viennent accompagner les établissements dans leur politique égalité. Pour ce qui est de l'université de Tours, je ne saurais pas vous donner la date exacte, mais je crois que c'est apparu en 2017 et en fait petit à petit ça s'est construit pour vraiment mettre en avant et se montrer moteur en fait sur les politiques égalité professionnelle, lutte contre les discriminations, contre les violences. Donc ça a été vraiment une construction au fil de l'eau. Et chaque année, en fait, s'ajoutent de nouvelles compétences, de nouvelles thématiques, parce que, un peu comme la société, en fait, on se rend compte que l'égalité, ça va bien plus loin que ce qu'on imagine. Et ça concerne, en fait, plein de publics et plein de sujets, puisque finalement, les inégalités, elles vont se nicher dans les moindres détails de nos vies quotidiennes, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit racisé, qu'on ne soit pas. Il y a vraiment comme ça cette volonté de décortiquer ce que sont les inégalités et qui produisent vraiment de grosses difficultés dans une carrière ou au cours de ses études. Donc les missions égalité, c'est vraiment quelque chose qui a été voulu par le ministère, qui s'est installé au fil de l'eau dans les universités et qui, quand on regarde les universités, en fait, n'ont pas toutes le même périmètre, mais globalement, on travaille toutes à... dis toutes parce qu'on est essentiellement des femmes. Il faut reconnaître que dans l'émission Égalité, alors je ne veux pas du tout stigmatiser les uns par rapport aux autres, mais c'est une réalité. Quand on se réunit, en fait, on constate qu'on est beaucoup de femmes. Et voilà, c'est des services qui apportent, je dirais, une lecture un petit peu différente. C'est un pas de côté, en fait, sur ces questions. Mais il faut bien noter quand même que c'est bien le ministère de l'Enseignement supérieur qui nous enjoint, en fait, de mettre en place ces dispositifs.
Et quelles sont, du coup, les principales inégalités qu'on observe chez les étudiants et les salariés ? Comment se manifeste le plafond de verre à l'unité de Tours ?
Alors, ouais. Les inégalités, elles se trouvent. Alors, il y a différents sujets. Il y a la précarité menstruelle. C'est un sujet qui a été dont s'est emparée la mission Égalité et d'autres services de l'université pour permettre à toutes les personnes menstruées, en fait, de trouver au sein de l'établissement des solutions, en fait, pour ne pas être pénalisées dans leurs études. C'est des inégalités donc de moyens, des inégalités financières. C'est des inégalités d'accès. Au matériel pour pouvoir étudier, les inégalités, en fait, elles se nichent un peu dans tout. Et qu'on soit étudiant ou qu'on soit personnel, finalement, qu'on soit dans une carrière ou qu'on soit au milieu de ses études, on se rend compte que les phénomènes sont un peu identiques et que des inégalités qui touchent des étudiants, elles peuvent très bien se présenter au personnel de l'université et dans d'autres structures, en fait. Et je dirais que des inégalités, forcément, si on a été mis en place, c'est bien qu'il y ait des inégalités à l'enseignement supérieur, dans les universités, et qu'il était utile d'avoir des services compétents, formés, en fait, à ces questions. Et donc, ces inégalités, elles se jouent sur toutes les personnes, je dirais, qui sortent un peu de la norme, hein, la norme qu'on nous impose à toutes et à tous dans notre société. En fait, ça se joue sur l'apparence physique, ça se joue sur l'origine, ça se joue sur l'orientation sexuelle, ça se joue sur plein de sujets, en fait.
Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. Est-ce que vous trouvez que dans les universités, et je pense que l'INSEE peut aussi en parler, les discriminations sont aussi présentes qu'au lycée ou au collège, dans l'école publique en soi ?
Je pense qu'en fait, c'est une continuité. Hein. On se rend compte que malheureusement, ce qui existe dans les collèges, à l'école, au collège et au lycée, finalement, continue à l'université et que... c'est pas par un coup de baguette magique qu'à l'âge de 18 ans, quand on passe en L1 d'une licence ou à l'IUT en but ou à Polytech Tours, en fait, qu'on devient mature, qu'on devient conscient, en fait, de ces inégalités. Donc on constate pas de changement finalement très important entre un élève de terminale et un étudiant de L1 et les années qui suivent. Donc ça, c'est...
Et puis, il faut penser qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ces inégalités, il peut y avoir des cas ou des événements graves où on peut être confronté directement à des propos sexistes, quelque chose. Mais souvent, c'est plutôt le résultat d'une espèce de millefeuille, d'une coule, de plein de petites choses qui s'additionnent et qui vont bloquer. Et en fait, ça... Mais il y a une continuité, c'est des choses qu'on intègre dès tout petit, en fait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus la personne, elle grandit, et quand on arrive en tant qu'étudiant à l'université, quand on est en tant que personnel, qu'enseignant, en fait, on a intégré plein de choses et on a tous ces biais qui sont rentrés. Et donc, ça va se traduire au travers de plein de choses, que ce soit les cours, quand on monte un projet de création d'entreprise. Ça va être de... Ben, on sait, par exemple, que... à deux personnes qui vont avoir la même posture, par exemple, qui vont présenter un projet d'un ton un peu vif, qui vont s'emporter un petit peu, eh bien, si la personne, c'est un homme, ça va être plutôt associé à quelque chose de positif. Il en veut, il est fonceur, c'est super. Et que à l'inverse, une femme qui va avoir une attitude un petit peu cassante, un petit peu fonceuse aussi, ça peut être associé à quelque chose de négatif. Ouais, bah, elle est peut-être brûlée et ça inconsciemment, la personne va pas le dire, enfin va pas conscientiser en se disant ah c'est une femme donc c'est juste. présenter à deux personnes qui en fait factuellement ont le même comportement. Il y a un qui va avoir, qui va être identifié positivement, l'autre négativement. Il y a le fait de, pareil, dans plein de choses, dans des entretiens pour des masters, des entretiens de recrutement, ça va colorer plein de choses. Et nous, au niveau de l'entrepreneuriat, ça se traduit par voilà un cumul de blocages, de choses qui achoppent, vont amener à ce que nous, il y a un chiffre, c'est que quand les étudiants rentrent dans nos programmes, on commence par de la sensibilisation, on est à peu près à 50-50, c'est-à-dire on a autant de filles que de garçons, autant d'hommes que de femmes. Quand on avance dans les programmes et qu'on est sur des programmes où on va créer son entreprise, on est plus loin dans l'accompagnement, et progressivement, on a une déperdition de jeunes femmes. Et on arrive sur nos programmes de création, plutôt à la fin, à du... Ça dépend des pépites. Nous, c'est du 40-60, entre 35 et 40% de femmes pour entre donc 60 à 65% d'hommes. Et voilà comment ça va se traduire concrètement. Mais c'est lié à un cumul de différentes petites choses.
Et c'est une réalité qu'on peut trouver aussi dans nos études, dans nos formations, c'est-à-dire que j'ai en tête deux exemples, les doctorants-doctorantes, vous avez énormément de femmes qui s'inscrivent en doctorat et qui ne vont pas jusqu'au bout du doctorat. Vous avez également sur les études de médecine énormément de femmes en première année de médecine et finalement les postes les plus gradés se trouvent occupés par des hommes. Donc il y a malgré tout des mécanismes et comme le dit l'INSEE en fait des événements qui se passent au milieu de la carrière, au milieu de la poursuite d'études qui sont des empêchements. Sont des freins, sont des ce qu'on appelle on peut galvauder le terme de plafond de verre, mais c'est en fait plein de petits obstacles comme ça qui conduisent à remettre en question en fait les projets que peuvent avoir nos étudiantes et nos collègues.
Oui, c'est ça, parce que donc il y a une majorité d'étudiantes femmes à l'entrée à l'université. Et par contre, quand il s'agit d'accéder à des postes à responsabilité ou à une poursuite d'études en doctorat, tout de suite, ce chiffre baisse drastiquement.
Oui, tout à fait.
Vous parliez donc d'événements qui arrivent au cours des cursus. Qu'est-ce qui peut intervenir alors qui fait que ces fonctions ne sont pas occupées de façon égalitaire ?
Et comme le dit l'INSEE, il y a aussi ce positionnement à adopter en tant que femme lorsqu'on vient postuler à un master, quand on veut s'inscrire en thèse, lorsqu'on veut animer un projet. C'est ces espèces de biais et de stéréotypes qu'on colle aux femmes où l'ambition est mal vue, management et la capacité à réunir et à engager un groupe sur un projet est toujours un petit peu questionnée. On a un peu l'impression qu'une femme qui prend la parole, une femme qui, prend la première place, c'est pas très bien vu, en fait. Alors, on peut constater quand même que ça recule un petit peu, mais malgré tout, ça reste très ancré dans nos sociétés qu'une femme... Elle est plutôt sur des seconds rôles, elle est plutôt là en soutien, plutôt qu'en position de leader. Et ça, c'est, ce qui conduit aux différences à la toute fin, finalement, des carrières et des formations. C'est souvent... Et puis, c'est aussi cette idée que les femmes ont complètement intériorisé tout au long de leur vie, qu'il ne faut pas faire trop de bruit... Il ne faut pas trop se faire remarquer, il faut être, dans le soutien, l'accompagnement des autres. Alors que, et là vraiment je m'appuie sur des études qui sont assez documentées, tout ça. Hein. Je n'ai pas en tête toutes les recherches qui se sont faites là-dessus, mais que les hommes sont finalement, dès l'enfance, habitués à prendre la parole, que ce soit à l'école, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les familles. Il y a vraiment cette idée que la position de l'homme et de la femme ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est inculqué très, très tôt.
Et est-ce qu'on observe donc une différence de parité entre les différents campus et les différentes filières ?
Alors, qu'est-ce que vous entendez par parité ?
Alors, répartition d'étudiants masculins, féminins, féminines ?
Alors, sur les filières, effectivement, on constate qu'il y a des filières qui sont plutôt genrées féminines et puis des filières qui sont genrées au masculin. Ce qu'on constate aussi, c'est que ce sont souvent les filières les plus rémunératrices en termes d'emploi qui sont convoitées par les hommes, hein, qui ont bien conscience, finalement, que l'informatique, les métiers d'ingénieur, la médecine sont des filières prestigieuses. C'est des filières qui, à terme, leur ouvrira les portes vers des postes rémunérateurs et donc sont très masculinisées. À l'université de Tours, comme dans plein d'autres universités, hein, je crois qu'on ne fait pas exception à la règle. Et les femmes vont être davantage sur les sciences humaines, vont être sur des matières comme ça, stéréotypées comme étant plus féminines.
On retrouve beaucoup, ça fait écho à ce qu'on retrouve aussi dans le monde professionnel. Les femmes sont beaucoup dans les métiers qu'on dit du care, du soin à l'autre. Donc on va les retrouver beaucoup, les formations d'infirmières, tout ce qui peut être du soin à l'autre, également l'enseignement. Au sein aussi du personnel de l'université, il faut penser qu'on est, on est majoritairement des femmes, en fait, dans tout ce qui est la fonction publique. Et ça va se traduire dans les formations. Je reviens sur le fait qu'il y a un côté un peu millefeuille. Il y en a peut-être quelques-uns, mais il y a rarement des cas où le recruteur il va être face à un homme et une femme, un candidat homme et une femme, et il va privilégier sciemment un candidat homme pour un métier technique ou sciemment un candidat femme pour un métier du soin en se disant « non, je préfère prendre un homme ». C'est tout un tas de biais, de perceptions qu'il a. Et pareil pour les étudiants. Enfin, c'est fini, on n'est plus en 1920. Il n'y a personne qui dit aux étudiantes « vous n'avez pas le droit de vous inscrire en sciences ». Mais il y a quand même tout un phénomène de différentes choses qui vont faire qu'il y a une autocensure, qui vont faire qu'on ne va pas rechercher les mêmes choses et tout, qui vont faire qu'on constate en fait ces différences entre les formations et le fait qu'on ne retrouve pas les hommes et les femmes dans les mêmes formations, dans les mêmes proportions.
Merci à vous pour cette belle présentation. On va pouvoir y revenir plus en profondeur. On va faire une petite pause musicale sur Radio Campus Tours. Que va-t-on écouter, Marie ?
Oui, on écoute une suggestion de Lynn et Georges. C'est Rose Betts avec le titre Irish Eyes.
My mother says I have Irish eyes, Irish eyes, Irish eyes. My mother says I have Irish eyes. They go ever so blue on the stormy skies. But then ever so blue is when I let them cry. My father says I have English hair, English hair, English hair. Brown like the bark of an oak somewhere, like the bed of a lake where the hemlock grows, like the thorn in the stem of an English rose. I'm a map of the world and the ones before, one foot in sea and one on shore. Every step, every hope for long high. I'm a map of them all with my Irish eyes. My nana said I am traveling feet, traveling. For princesses don't fit me, but I dance to my own drum bright and bold, and my traveling feet always get me home. My sister says I have a restless soul, restless soul, restless soul. Easy to catch, but I'm hard to hold, like a song on the wind that you caught one day. I get on the skin, then I step away. I'm a map of the world and the ones before.
Vous venez d'écouter Irish Eyes de Rose Betts sur Radio Campus Tours, une proposition de nos invités, et parlons-en aussi de nos invités. Il est temps à présent de nous intéresser un peu plus d'eux. Alors je rappelle que Linsa Georges et Christine Inchoup-Spé sont avec nous aujourd'hui. Parmi les mesures qui ont été suggérées par des étudiants, il y a des distributions de protection périodique qui ont été mises en place. D'abord de protection biosourcée et jetable, et puis de protection réutilisable. Comment est né ce projet ?
Alors, ce projet, il est né avant que j'arrive, en 2021. Des collègues organisaient déjà des distributions en partenariat avec des associations étudiantes. Et puis, en 2021, il a été décidé, en fait, d'institutionnaliser un petit peu plus ce projet parce qu'on avait à l'esprit que la précarité menstruelle était un vrai sujet pour les personnes menstruées à l'université. Et donc, on a d'abord proposé, en partenariat avec le conseil départemental, la ville de Tours et l'université de Tours, des distributeurs, on a installé des distributeurs de protection périodique jetables dans l'ensemble de nos sites de Tours et Blois. Ces protections périodiques, on avait à cœur qu'elles soient de très bonne qualité, puisque l'idée, c'était vraiment de proposer des protections de qualité à nos étudiants et étudiantes et vraiment de faire en sorte d'avoir une politique éco-responsable également. Et puis est venue l'idée et ça, c'était un projet étudiant à la base aussi. Il faut le souligner, c'était une étudiante de l'IUT de Tours qui avait eu ce projet, mais qui, ayant terminé ses études, ne pouvait pas l'amener plus loin. Et donc, avec elle, on a fait en sorte d'installer ces 33 distributeurs. Et donc, ça a été une sacrée période parce qu'il fallait vraiment réunir le maximum de monde, convaincre les gens, parce qu'en 2021, on était déjà, on n'était pas encore au niveau actuel de compréhension en fait de ces enjeux sur la précarité menstruelle. Et donc, il a fallu convaincre, il a fallu emmener beaucoup de monde. Et finalement, ben voilà, ça s'est mis en place en septembre 2021. Et à ça, il y a eu beaucoup de retours de la part de nos étudiantes qui nous disaient, mais ça serait bien maintenant qu'on passe aux protections périodiques durables. Et donc, on les a écoutées. Et on a, grâce à la CEVEC, qui est la contribution vie étudiante et campus, pu financer de nombreuses distributions de protections périodiques durables. Alors au départ, c'était des serviettes, c'était des cups. Et aujourd'hui, c'est des culottes menstruelles. Et en fait, on en distribue, l'année dernière, on en a distribué 2000. Sur les différents sites de l'université. Et là, cette année, on en aura distribué 1000. Donc, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur parce que c'est quelque chose qui amène toujours beaucoup d'humanité, en fait. Quand on va vers nos publics, en fait, avec cette proposition, on sent vraiment qu'on leur apporte quelque chose qui peut paraître simple, mais qui est en fait fondamental. Pour se sentir bien dans ses études, pour se sentir bien et pas... on apportait une réponse, en fait, de dépannage, mais aussi, j'imagine, que des personnes, en fait, s'approvisionnent chez nous et c'est tout à fait normal. Donc, c'est vraiment un projet fondamental pour la mission Égalité.
Je me permets aussi de rebondir, parce que du coup, vous avez parlé de la précarité menstruelle. Sur ce que vous voyez... Est-ce que du coup la précarité étudiante est vécue de manière complètement différente chez les hommes et chez les femmes ?
Alors ce qui est rigolo, c'est que en 2021, on voyait que des publics genrés féminines. Et puis au fur et à mesure, on a vu arriver d'autres publics. En fait, alors je peux pas dire qu'il y a une inversion totale, mais je sens quand même que en 4 ans, les hommes se sont aussi positionnés sur ces questions et en fait sont beaucoup moins gênés qu'ils ne pouvaient l'être il y a 4 ans en arrière. Ils viennent assez facilement pour leurs copines, pour leurs sœurs et tout, chercher des protections. Ou bien on peut avoir aussi des personnes transgenres qui viennent nous voir et qui viennent récupérer ce qu'on propose. Et en fait, c'est vraiment une évolution qu'on peut noter sur ces 4 dernières années.
Eh bien, parlons-en des évolutions. Quelles autres évolutions on peut observer grâce notamment à cette mission Égalité au sein de l'Université de Tours ?
Bah, je dirais que la mission Égalité, elle a participé aussi à la libération de la parole à l'université. je ne sais pas si vous savez, mais il y a des cellules d'écoute, en fait, à l'Université de Tours. Il y a des cellules pour recevoir et traiter les signalements, en fait, qui émanent de l'université. Et, en fait, la mission égalité co-coordonne ces cellules à destination des étudiants avec la direction des affaires juridiques. Et donc, ça, je dirais que ça a été une grande avancée parce que les cellules qui sont en place actuellement ont été véritablement pensées, ont été imaginées avec aussi beaucoup de transparence. On peut voir sur nos sites, sur le site de la mission égalité, les statuts de nos cellules. On peut voir un petit peu comment se déroule une procédure de signalement, de manière à rassurer aussi les personnes qui pourraient nous contacter. Donc ça, je dirais qu'on a accompagné. La mission égalité, c'est un peu l'accompagnement social, mais sociétal, en fait, de l'université. Et c'est une manière aussi d'ancrer l'université dans toutes les discussions et dans tous les mouvements de réflexion qu'il peut y avoir actuellement autour de l'égalité. Et donc je pense que ouais, c'est certainement cette partie-là qui montre l'évolution.
Et est-ce qu'il y a des discussions autour de... Alors, on ne peut pas vraiment parler de congés à l'université, mais donc de façon d'appréhender les menstruations, notamment pour les TD qui sont obligatoires, la présence de TD qui est obligatoire. Est-ce qu'il est possible, ou est-ce qu'il sera possible, de ne pas y aller?
Alors, il y a un groupe de travail qui va se monter prochainement, justement, avec le service de santé étudiante pour aborder la question du congé menstruel. Pour les étudiantes de l'Université de Tours, il y a des aménagements qui sont possibles actuellement. Et là, je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que c'est le service de santé étudiante qui est vraiment à la manœuvre sur ces questions. Mais malgré tout, ce que je peux dire, c'est qu'il y a, la mission égalité a été, va être prochainement associée à la réflexion sur la mise en place d'un congé menstruel ou pas. Je ne peux pas non plus... tout de suite dire que
c'est engagé
en place, mais en tout cas ça s'engage parce que c'est un vrai sujet en fait dans nos discussions.
Et alors avant de repasser sur l'entrepreneuriat, au Tanneur il y a des toilettes par exemple incluant un petit symbole pour les personnes non genrées, trans ou intersexes. Est-ce que c'est le cas sur tous les campus?
Alors oui, depuis 2021 en fait on a déployé ces toilettes neutres sur l'ensemble des sites de l'université. Il y en a une trentaine en fait qui sont là encore répertorié sur le site internet de la mission égalité. Voilà. L'idée, c'était vraiment de... Il y a des sites qui déjà avaient... ne proposaient que des toilettes neutres. Je pense à l'IUT de Tournord, par exemple, qui n'a jamais genré ses toilettes et qui, je dirais, s'en portait très bien. Et la décision a été prise en effet en 2021 de généraliser ces toilettes neutres tout en permettant aussi aux personnes que ça mettait pas très à l'aise de pouvoir conserver des toilettes genrées sur les sites de manière à ce qu'en fait on puisse faire cohabiter l'ensemble des publics puisque c'est un peu l'idée, c'est voilà, qu'on soit ce qu'on est, et ben on puisse trouver des toilettes des toilettes adaptées à nos attentes.
On le disait mardi dernier, les femmes dans le milieu entrepreneurial occupent une place réduite par rapport à celle des hommes. Sur le site de Pépite, le chiffre qui est donné, c'est 30%. C'est vrai que c'est un chiffre qui date d'il y a 7 ans. Sur d'autres sites, des chiffres similaires sont applicables. Il y a déjà 2-3 ans sur Forbes, on est à peu près sur les mêmes proportions de femmes entrepreneurs qui sont accompagnées. Comment est-ce qu'on explique cela?
Alors nous, au niveau des chiffres plus récents, au niveau des étudiants entrepreneurs, on est plutôt à 35% de femmes. Donc c'est bon signe, ça veut dire que ça évolue dans le bon sens, mais ça évolue lentement. Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? Alors il y a plein de, je sais pas, une réponse, il y a plein d'éléments de réponse qui très certainement interagissent. Comme ça spontanément, les choses auxquelles on a tendance à penser, nous sur l'entrepreneuriat étudiant, hein, public étudiant, tendance à penser qu'il y a peut-être dans certains cas la tentation à la suite des études de, enfin, question liée à la prise de risque. Parce que prendre, ça peut être perçu plus risqué de lancer un projet entrepreneurial au lieu de chercher un premier emploi. Et donc ça peut être un un critère, quelque chose qui va faire que bah, les jeunes filles, les jeunes femmes vont se sentir moins à l'aise et vont être plus tentées de repousser le projet entrepreneurial et de rechercher une première stabilité. Il y a également donc question de prise de risque, question de de rôle modèle aussi sans doute, d'être capable de se projeter dans une vision de l'entrepreneuriat et une vision d'entrepreneuriat qui leur ressemble, parce que des femmes entrepreneurs, il y en a, elles sont de plus en plus médiatisées, ça, elles restent quand même minoritaires dans la médiatisation, mais il faut pouvoir se retrouver aussi dans l'image de la personne. C'est pas parce que une image, on présente une femme entrepreneur, si elle a des caractéristiques les mêmes caractéristiques qu'un homme entrepreneur, c'est-à-dire que oui, certes, c'est une personne de sexe féminin, mais elle présente l'image de quelqu'un qui travaille 100 heures par semaine et qui a percé dans un domaine ultra masculin en prenant des comportements ultra masculins, ce dont ce qui est tout à fait légitime, honorable, rien. Mais donc une personne qui va avoir envie de, enfin, qui va avoir une autre conception de la réussite, une autre conception du leadership, une autre conception va pas s'y retrouver en fait. Et quelque part, il y a une question de mettre en avant une diversité de profils, de modèles, dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans les carrières, de montrer que on peut être un leader, on peut être une chef d'entreprise, on peut être une chef de service, et qu'on n'a pas obligé de rentrer dans des critères, que dans une seule vision de la réussite et un seul type de critères, avec d'être présent jusqu'à 19h, d'aller à des événements tous les soirs, d'être dans une logique juste de progression de carrière, de monter de plus en plus haut. Je pense qu'il y a une question ça aussi, d'avoir des modèles différents.
Et en lien avec ce qu'on disait plus tôt, le fait d'être une femme entrepreneur aussi, ça demande d'assumer son ambition et d'avoir des regards aussi plus négatifs sur une même posture entrepreneuriale. Donc avec le dispositif, le pôle Pépite, est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez justement à accompagner, à soutenir cette position féminine d'entrepreneur?
De mettre en avant la diversité des profils qui peuvent exister, c'est quelque chose, ça fait partie de... Depuis 4 ans, en fait, on a mis en place des actions, un programme qui s'appelle Women on Work, où à partir du constat qu'il y avait une inégalité, qu'il y avait une différence, en fait, on s'est dit, on va mettre des choses en place. L'une des premières choses qu'on a fait, c'est de tourner des petites vidéos et de mettre en avant des portraits où on montre, pas que des portraits d'étudiantes d'ailleurs, mais de montrer nos étudiants,
le panel.
Le panel, la diversité et que tout ce qui peut exister comme possibilité. Également, on a mis en place des ateliers assertivité depuis 3 ans pour apprendre, se sentir plus à l'aise à exprimer ses besoins, à être dans une posture plus facilement, oser dire non, oser dire les choses et se sentir plus à l'aise pour sortir des fois du silence et de la passivité quand on est dans une situation pas facile.
Et quel type du coup de projet est-ce que développent les étudiantes que vous accompagnez au sein de Pépite ?
Plein de projets différents. Je pense à le projet d'Aminata, une doctorante qui est originaire de Côte d'Ivoire, qui a développé un projet d'internat pour les jeunes filles qui veulent aller au collège dans cette région-là. On a Clémentine qui a monté un projet cabinet sur l'égalité hommes-femmes au travail à Gauche et Conseil, des projets aussi scientifiques et techniques. Il y a tellement de projets, c'est difficile de choisir. Je voudrais justement un exemple, ça sur des exemples de projets scientifiques. Alors moi j'ai l'exemple plutôt inverse, un projet d'un jeune homme sur les cosmétiques et en mathématiques sur des algorithmes pour trouver la bonne couleur de cosmétiques pour la peau, comme quoi pour montrer que cosmétiques c'est pas que pour les filles.
Ce qui sont déjà de beaux projets, ouais.
Voilà, c'est ça.
Et avec Samuel, on se demandait, est-ce qu'il y a des abandons de projets à cause d'inégalités?
Alors, comme ça, j'ai pas de cas spécifique qui me vient en tête où je pourrais mettre le doigt sur un élément. Mais oui, il y a forcément des projets quand on sait. Si, je pense au projet, on en avait parlé, elle en a parlé d'ailleurs pendant un concours. On a une étudiante entrepreneur, Alvina, elle a monté un projet d'une peluche connectée. Le projet s'appelle Teto. Et Alvina nous expliquait lors d'une remise de prix qu'en fait, à l'origine, elle avait un premier projet qu'elle avait présenté, qu'elle voulait monter sur la logistique dans les supermarchés. Et qu'en fait, quand elle a été présentée, soutenir son projet dans distributeurs et tout, elle n'a pas été prise au sérieux en étant une jeune femme. Et qu'un projet d'une peluche connectée, à l'inverse, quand on est une jeune femme, ça parle beaucoup plus.
Et j'ai une question aussi par rapport à ça. Est-ce que les projets sont assez genrés ?
Non, pas tellement. On a vraiment au niveau des projets, on a vraiment de tout. Mmh. Alors on retrouve des fois des projets genrés, parce que l'objectif n'est pas de faire l'inverse, c'est de dire non, vous êtes une fille, vous n'avez pas le droit de faire de projets genrés féminins. Mais non, il y a vraiment. On a des projets très scientifiques et très techniques avec des porteuses, des projets. Non, c'est très, très varié.
Et vous avez cité donc le concours. Si les étudiants veulent promouvoir leur projet, il y a la possibilité d'intégrer le concours Créa Campus pour être à la fois formé et faire valoir son projet. Quelles sont les étapes de Créa Campus et qu'est-ce que ça permet aux étudiants qui y participent ?
Alors Créa Campus, c'est un concours qui est organisé tous les ans. L'idée, en fait, c'est que tout étudiant, étudiante de la région qui souhaite tester son projet, puisse s'inscrire, ça a lieu d'octobre à mars, et il y a une alternance d'ateliers, soit en présentiel, soit en distanciel, si vous ne pouvez pas vous déplacer, où on vous présente les différentes étapes de la création d'entreprise. Vous allez aussi avoir un parrain, une marraine, qui va pouvoir vous accompagner sur le projet, et l'idée, c'est de vous amener progressivement à avancer, à tester le projet, pour nous rendre un dossier, voilà, et nous présenter le projet en courant mars, et peut-être passer à l'oral et tenter de gagner un des prix, puisqu'on a de la chance d'avoir des financements régionaux, donc le prix de 5000 euros pour le meilleur projet régional, ou différents projets thématiques, des prix de 1000 euros pour des projets qui se sont particulièrement fait remarquer sur certaines thématiques.
Eh bien, merci beaucoup, Lindsay, pour cette réponse. On va faire une nouvelle pause musicale en écoutant « Femme » de Camilla Jordana, qui cette fois-ci a été suggérée par Christine.
Mesdames, mes femmes, prenons les armes, il est temps, usons de nos larmes. Aucun besoin de faire couler le sang, comme seuls savent le faire. Nous nous contenterons de ce simple chant, dès lors que nos cœurs se serrent.
C'était Femme de Camélia Jordana sur Radio Campus 99.5 FM. Vous écoutez toujours l'émission Sortez, et avec nous, on est toujours avec Lindsay George pardon, et Christine Inchospé. Je vais y aller direct. on a beaucoup parlé des étudiants et j'aimerais juste revenir, étudiant-étudiante, j'aimerais juste revenir sur un phénomène qu'on voit beaucoup être médiatisé en ce moment, malgré qu'il y a pas mal d'études qui sortent déjà depuis un an ou deux ans sur cela. Au sein de la génération qui arrive maintenant dans les études supérieures, la génération Z, on constate un phénomène de deux jeunesses qui vivent au sein d'une même génération, une jeunesse qui serait plus progressiste et l'autre plus conservatrice. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez au quotidien? Et bien évidemment, est-ce que c'est quelque chose d'handicapant pour les femmes ou pas?
Alors, oui, on la voit. Oui, on la voit. On voit ça à travers, par exemple, des études ou des enquêtes qu'on peut mener. Notamment, on en a lancé une récemment sur les toilettes neutres et on voit bien que les positions sont beaucoup plus clivées qu'il y a de 3 ans en arrière, en fait. Il y a vraiment un positionnement comme ça, assez conservateur, de la part d'une partie de nos étudiants et étudiantes. Je pense que ça se retrouve aussi chez les personnels. Hein. Je pense qu'il y a un retour actuellement, l'actualité est là pour nous le rappeler, en fait. Hein. C'est que l'université, elle n'est pas complètement étanche à ce qui se passe dans le monde et que ces revirements qu'on constate à l'international depuis quelques mois, en fait, on les retrouve à l'université et que les personnes se sentent peut-être un petit peu plus autorisées à prendre la parole et à émettre des opinions qui auparavant étaient davantage tues. Mais je tiens à rappeler ici quand même, puisque c'est un sujet sur lequel nous on essaie de sensibiliser un petit peu tout le monde, c'est que ces opinions ne doivent pas être classées parmi des opinions, mais qu'il s'agit parfois d'outrages sexistes, d'outrages discriminatoires, et que en fait on n'est pas autorisé en France à pouvoir prendre la parole pour dire tout et n'importe quoi. Que ce qu'on appelle entre guillemets des blagues, ce qu'on constate hein, dans les cellules d'écoute, hein, c'est-à-dire des personnes qui s'autorisent comme ça à entrer en amphi en lançant à la cantonade des propos tout à fait problématiques, ce ne sont pas des opinions, ce ne sont pas des blagues, hein, ce sont des outrages sexistes ou des outrages discriminatoires, pour le moins. Donc il s'agit vraiment de rappeler en fait les valeurs de l'université, et l'université de Tours, elle est, je dirais, très engagée sur ces sujets pour faire en sorte que tout le monde puisse trouver un lieu de travail et d'études qui soit confortable et qui soit légalement adapté pour que chacun et chacune puisse, je dirais, entreprendre ses études et poursuivre sa carrière en tranquillité.
Quel conseil vous auriez pour des étudiantes qui souhaitent entreprendre?
Déjà de se lancer, de pas hésiter à se lancer, de tester, de se dire que ça c'est pour tout le monde, c'est pas que les étudiantes, mais c'est peut-être quelque chose qui freine encore plus, de se dire qu'on peut tester à petit, on n'est pas obligé d'y mettre toutes ses économies et tout, mais il y a plein de dispositifs qui existent pour tester, on va dire, à peu de frais et en limitant les risques. Donc de se dire que c'est possible, que ça existe et qu'on peut tester. Se penser aussi qu'il n'y a pas qu'une seule façon de réussir un projet entrepreneurial, et que c'est pas que l'entrepreneuriat, c'est pas que viser d'avoir une boîte avec une croissance massive et une vision de la réussite où on se fait beaucoup d'argent, même si c'est très respectable, et qu'on peut tout à fait, qu'on peut se lancer aussi, si on a une vision de la réussite qui consiste à garder du temps pour soi, pour faire d'autres choses, si on veut se lancer sur des projets qui veulent changer le monde, si on a des projets à lucrativité limitée, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat engagé, ou même de l'associatif, parce que nous, c'est au-delà de l'entrepreneuriat classique, c'est aussi l'esprit d'entreprendre. Donc voilà, se lancer, se dire qu'il y a forcément un projet qui correspond à ses envies, ses attentes, si on a quelque chose qui nous pince là dans le ventre, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de créer, qu'il y a plein de façons de créer sa boîte, de lancer son projet.
Et qu'il y a autant d'entrepreneuriat que d'entrepreneurs.
Ouais, tout à fait. À peu près.
Est-ce qu'il y a une figure engagée qui vous inspire au quotidien?
Il y en a tellement.
Vous en avez plusieurs.
Tellement, hein. Franchement, là. En fait, depuis quelques temps, à la mission Égalité, on a. Alors, j'ai actuellement la chance d'avoir une stagiaire, Carla, qui doit m'écouter là actuellement.
Bonjour, et, Carla.
Bonjour, Carla. Et en fait, on a créé une galerie en fait, de portraits qu'on affiche sur nos murs et qui nous inspire en fait, au quotidien pour, je dirais, nous rappeler aussi pourquoi on est là. Et en fait, c'est hyper inspirant parce qu'on voit les visages de Kimberly Crenshaw, on voit les, on voit Bell Hooks, on voit Gisèle Halimi. Alors Gisèle Halimi, cœur sur elle. On voit Simone Veil. Et en fait, il y a plein de femmes comme ça qui nous inspirent énormément. On a également Françoise Daubonne, sur laquelle on a fait une table ronde et enfin. Un ciné-débat, on va dire, pendant la semaine de l'égalité, qui a été la première dans les années 70 à parler d'écoféminisme. Et en fait, c'est une figure incroyable. Et je vous invite à visionner en fait le documentaire de Manon Aubel sur Françoise Daubonne, une épopée écoféministe, qui est vraiment un documentaire de 50 minutes qui vous explique ce qu'est l'écoféminisme et qui est, mais alors, je dirais que elle parle dans les années 70 de tous nos sujets. C'est-à-dire que c'était il y a 50 ans. Et finalement, ce dont on se rend compte, parce que souvent il y a ce décalage générationnel, elle est d'une jeunesse, d'une fraîcheur assez incroyable. Et vraiment, je vous invite à regarder ce documentaire. Et puis après, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Anne-Cécile Maillefer, pour Victoire Tuillon, qui travaille voilà, tous les jours, sur Salomé Sacquet, qui travaille, s'engage en fait, sur tous ces sujets, Titu Lecoq. Il y a plein de personnes comme ça et ça, c'est vachement rassurant en fait, de se dire que le sujet, maintenant, il est popularisé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur, même si on sait hein, ce que sont les réseaux sociaux, etc. Tellement compliqué en fait de faire entendre des voix différentes, mais je crois que c'est important. Elles se battent au quotidien en fait aujourd'hui pour que les différences en fait puissent être vues. Et je pense aussi à Rokhaya Diallo, ça m'aurait blessé de pas citer son nom, mais c'est vraiment des personnes qui sont hyper inspirantes, hyper engagées, qui sont courageuses hein, et qui entraînent avec elles beaucoup d'espoir et beaucoup d'enthousiasme.
Même difficulté à donner un nom, il y en a tellement. Moi, j'admire les gens en fait, qui vont arriver à tracer leur chemin et qui vont sans plier par rapport à la pression, soit qui a pu être par le passé, soit les pressions actuelles, mais tout en restant humaine, lumineuse, bienveillante. J'aime bien l'image des deux. J'aime bien notamment alors, je ne suis pas sûre de la prononciation, Tove Jansson, l'autrice finlandaise qui a notamment fait les Moumines. J'aime beaucoup le côté un peu impertinent qu'elle a dans certaines de ses créations, quand on va au-delà de l'apparence des mignons petits Moumines, et quand on va lire un peu sa vie, de comment elle a contourné un petit peu des obstacles qu'elle pouvait avoir. C'est un personnage que j'aime beaucoup, mais ce n'est qu'un, enfin, un peu difficile d'en citer qu'un, parce qu'il y a plein de... Merci à Christine d'en avoir cité autant.
Et vous, Geoffrey, Samuel, il y a des personnalités qui vous inspirent? Personnalités féminines?
Bah écoute, moi, il y en a une qui me vient naturellement parce que j'ai tiré le nom de l'émission du livre. J'arrête pas d'en parler depuis le début, mais Reine Pratt, haute fonctionnaire au ministère de la Culture. Son livre exposé Le Plafond, qui est paru en 2021, est juste un tournant pour faire rendre compte des disparités, des inégalités professionnelles qu'il y a dans la culture. Mais ce qu'il y a de génial en plus dans ce livre, c'est qu'elle permet, elle énonce une banque de ressources culturelles et elle énonce les schémas de fonctionnement, les échafaudages institutionnels et hiérarchiques de la culture. Elle ne se contente pas d'écrire des choses très techniques, mais en plus, elle incite les fondements purement structurels. C'est un livre qui... je pense qu'il faut le lire parce qu'en fait, il est facilement transposable sur plein d'autres secteurs hors de la culture. Et en plus, il peut nourrir parfois des réflexions féministes un peu naissantes de façon complètement géniale, en fait, assez cool.
Je vais peut-être sonner un peu bateau, mais moi, ce serait plus toutes les femmes de ma famille. Elles m'ont vraiment apporté une vision très claire de ce qu'est la femme, surtout à notre époque. Et franchement, des femmes en dehors de celle de ma famille, j'en ai pas. J'en ai pas. Et toi, Marie ?
Moi, c'est un nom que j'ai beaucoup cité la semaine dernière pendant les assises du journalisme. C'est Gisèle Pellicot. Elle est récente dans l'histoire, mais je suis persuadée que ça va continuer de retentir encore longtemps après son passage. Et il y a un tel impact social et une telle question dont tout le monde doit se saisir que ça continue de m'interpeller. J'ai presque envie de dire tous les jours, tellement c'est autour de nous, en fait, ces problématiques-là. Donc ça serait Gisèle Pellicot. Ouais. Et alors, si on peut conclure sur une dernière petite question. Qu'est-ce que vous aimeriez développer ou renforcer au sein de vos structures respectives dans les prochaines années ?
En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on sensibilise encore plus les étudiants, étudiantes et les personnels de l'université sur la question des violences sexistes et sexuelles qui sont, à mon sens, vraiment le lit d'énormément d'inégalités. Sur les questions de discrimination, sur les questions aussi sans culpabilité. C'est-à-dire que j'ai vraiment à l'idée que tout ça n'est pas un combat entre les hommes et les femmes, hein, mais plus entre un système, oserais-je le mot, patriarcal, en fait, qui nous enferme dans des cases desquelles il est difficile de sortir, en fait. Et je pense que les hommes sont autant... alors, autant j'exagère, je pense. En tout cas, il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient pouvoir sortir de ces cases dans lesquelles ils sont enfermés dès l'enfance. Et je pense qu'en fait, le jour où on laissera en fait les gens s'exprimer sur leur identité profonde et qu'on leur laissera en fait la plus grande liberté quant à leur expression, le monde sera... alors c'est vraiment, là je suis dans l'utopie la plus totale, mais là je rêve, c'est bientôt le week-end. Donc, mais j'aimerais en fait un monde où on laisse à chacun et chacune le droit d'être ce qu'il est. Et puis je pense qu'on ferait des sociétés beaucoup plus apaisées, des sociétés où finalement on serait davantage connectés, mais au vrai sens du terme. Et on serait dans des sociétés où les gens seraient beaucoup plus heureux et heureuses si on laissait à chacun et chacune le temps de souffler, le temps d'être ce qu'ils sont, dans la bienveillance, voilà. C'est vraiment un rêve que je vous
partage. C'est un beau message d'espoir.
Exactement.
Nous, dans un projet là pour qu'on va mettre en place, on va lancer un programme de mentorat à destination des femmes chercheuses qui ont des projets de création, alors de valorisation, pas forcément de création d'entreprise, mais de valorisation de leurs travaux de recherche. C'est quelque chose qui va être mis en place dans le cadre d'une des actions dans lesquelles je suis, le PUI Loire-Vallée Innov. Ça, c'est une prochaine étape concrètement, quelque chose qui va se mettre en place. Mais oui, je rebondis... on va dire en envie, en rêve, en souhait. Je rebondis sur ce que dit Christine, d'arriver en fait à faire comprendre aux gens que c'est pas un combat les hommes contre les femmes et que si on met en place une meilleure égalité, ça va bénéficier à tout le monde. Si on arrivait juste à faire comprendre ça et de dire on cherche pas à léser qui que ce soit, vous allez voir, même des gens qui sont un peu réticent peut-être encore aujourd'hui, juste comprenez que ça va vous bénéficier à terme, à court, moyen ou long terme. C'est, voilà, si on arrivait à, par coup de baguette magique, que tout le monde réalise ça, ce serait top.
Eh bien, merci beaucoup Lindsay George et Christine Inchospé d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un véritable plaisir.
Merci beaucoup.
Et on remercie également Geoffrey et la compagnie Mobius Ben d'avoir coordonné, initier cette série d'émissions.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
J'espère que tu en es heureux, satisfait.
j'en suis plus qu'heureux et plus que satisfait. Je vais faire un petit mot de la fin quand même, un truc un peu... je ressors quand même deux choses sur la série d'interviews que je pense qui a été citée à chaque fois, qu'importe les secteurs, qu'importe les invités. C'est quand même, d'une part, la légitimité des femmes dans leur conception et dans la construction de leur avenir. Ce qui ressort en tout cas, c'est que les filles et les femmes n'arrivent pas, en fait, par ce manque de modèle, à se projeter dans certaines professions. Et ça, c'est un énorme problème. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce podcast et d'interviewer des invités, des gens qui sont dans plusieurs secteurs, qui travaillent sur plusieurs questions. C'était pour créer des portraits, pour que les filles, les femmes, les citoyennes comprennent que c'est possible, qu'elles n'ont pas à avoir peur, qu'en effet, le sexisme, ça existe, qu'ils vont avoir des gens qui vont sans doute les discriminer, les opprimer, mais que c'est possible, que ça arrive, que même si les statistiques sont pas super, super joyeux, c'est possible. Et qu'il faut pas avoir peur, il faut foncer. Et aussi la posture des hommes, je pense que c'est important que chacun on arrive à se remettre en question. Les individus masculins qui ont été socialisés comme des hommes sur nos façons de parler aux femmes, sur nos façons de parler aussi aux hommes. Chacun et chacune, on doit toujours se remettre en question. Nous ne sommes pas que des individus qui vivons tout seuls dans notre coin. On est dans une société, on vit collectivement et notre individualité ne doit pas primer en fait sur le bonheur et la façon dont en fait les autres ont de vivre. Voilà, petit discours de fin.
Magnifique.
Je vous remercie beaucoup. Je fais juste la petite mention du fait que il y a toutes les autres émissions en podcast sur Radio Campus. Je vous remercie encore à toutes et tous d'avoir permis ce projet de vivre. Et voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Tu l'as dit, et cette émission ne fait pas exception. Elle sera retrouvée sur radiocampustour.com. On se laisse donc sur une touche de musique. Quelle est-elle, Samuel ?
Tingval Trio, un groupe avec un Cubain, un Autrichien et un Allemand. C'est magnifique. On vous laisse écouter ça et nous vous souhaitons une agréable soirée.
Radio Campus 99.5. Radio Campus 99.5. J'ai dit Radio Campus 99.5. Radio Campus Tour.